Bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'affaire Weinstein et ses suites. Cette séquence est-elle révélatrice des rapports entre les sexes? Que fera-t-on à l'avenir de cette libération de la parole? Journée spéciale aujourd'hui sur France Culture. Nous recevons à partir de 12h55 la philosophe et historienne de la pensée féministe Geneviève Fraisse, alors que reparaît dans une édition augmentée au Seuil son essai du consentement. Elle sera avec nous donc pour la deuxième partie de l'émission. Mais d'abord, une présence, une voix. Il a déjà interprété les plus grand rôle du répertoire italien et français. Le ténor allemand Jonas Kaufmann est en ce moment sur la scène de l'Opéra Bastille pour un Don Carlos en français. Nous l'avons rencontré entre deux répétitions, souriant, détendu, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Ah ouais, c'est pas grave. Bah papa, ça c'est mieux, ça marche ?
Ah oui. Et ça tourne.
Jonas Kaufmann, bonjour.
Bonjour.
Ténébreux, Jonas Kaufmann, c'est l'adjectif qui revient le plus souvent quand on parle de vous. À tort ou à raison? Parce qu'à Bastille, en ce moment, vous êtes Don Carlos. C'est le Don Carlos que vous interprétez. Il est plutôt espiègle, plutôt ultra-sensible, plutôt ravagé ensuite par l'amour impossible avec Elisabeth, qui doit épouser le roi d'Espagne, votre père. Vous vous sentez proche de ces hommes que vous incarnez sur scène?
Pas forcément. Le cas de Don Carlos, c'est pas facile de trouver vraiment des parallèles dans la vie, mais bien sûr, en même temps, on doit trouver une solution pour créer cet caractère sur scène. C'est comme il est le mien. Donc, on sait que le cas de Don Carlos, cette fragilité. J'ai l'impression, avec surtout maintenant avec la version en français, c'est plus facile de créer parce qu'il est fou, ça c'est clair aussi. Pas fou comme le personnage historique dans la réalité, mais peut-être comme Schiller a pensé de lui. Oui, donc autrement, il serait pas amicable pour le public.
Amical ou... on s'identifierait, on l'aimerait, il nous agacerait un peu, ouais. C'est ça. Vous dites que c'est plus facile en français, pourquoi? Parce que vous avez chanté aussi Don Carlos en italien. Dans la version française, en quoi vous semble-t-il différent du Don Carlos italien de Verdi?
Oui, la version ici, c'est pas seulement la langue qui change, mais on a ajouté beaucoup de choses qui, normalement, dans toutes les versions de Don Carlos que je connais, sont déjà coupées. Des choses qui Verdi même avait coupées avant la première mondiale ici à Paris parce qu'elle était trop longue. Surtout avec cette ballet à jeter qui était obligatoire. Donc on a des moments musicaux que aussi les experts d'opéra ils m'ont dit on n'a jamais entendu cette musique, c'est vraiment fait part de Don Carlo. Oui, c'est ça. Donc ça c'était très intéressant d'un côté pour moi, mais d'un côté c'était très difficile parce que de trouver le sorti nouveau d'un phrase à l'autre sans le coupe normal, c'était plus compliqué. Et en plus la langue, parce que l'italien est tellement connecté, accolé à les mélodies, qu'il était pour tout le monde, aussi pour Ludo Tézier, qui a déjà chanté une fois la version française, mais aussi lui a dit, oh, chaque fois que je pense à une phrase, je le pense en italien en premier, et après j'ai dit, non, arrête, c'est le français. Donc c'était vraiment pas facile. J'ai travaillé beaucoup plus que je crois que dans tous les autres parcs que j'ai préparé pour le para, mais maintenant le résultat qu'on a là avec cette combinaison idéale des chanteurs, oui, c'est, je crois, oui, un résultat mérité.
Donc, ce que vous dites, c'est que on construit un rôle. Déjà, vous ne le construisez pas seul. Vous le construisez aussi en miroir avec le reste du plateau, avec vos partenaires, avec un travail aussi avec le metteur en scène, avec le chef d'orchestre, on l'imagine. Mais il faut quand même, dans chaque rôle, chercher, même si, a priori, vous n'êtes pas dans la vie un Don Carlos en puissance, il faut aller chercher une sensibilité commune. C'était le cas aussi avec Werther, où vous étiez déjà, vous donniez déjà votre voix à un homme plutôt fragile, émotif. C'est le cas aussi, à contrario, avec un Othello, qui lui est plutôt le héros sombre et ombrageux, qui vous correspond peut-être un peu mieux, je ne sais pas. Ce Othello, vous l'avez joué en septembre à Covent Garden, c'est un autre grand héros de Verdi. Alors comment on fait pour passer d'un Othello à un Don Carlos, qui ont peut-être en commun d'être quoi, deux figures de la jalousie quand même?
Oui, deux figures de la jalousie, mais la jalousie avec une conséquence absolument différente, parce que oui, en cas de Don Carlos, il cherche de partir ou d'oublier ou peut-être de suicider, mais il veut pas toucher jamais toucher Elisabeth, l'objet de son amour. Mais en cas d'Othello, au contraire, Othello, pour lui, il a l'impression qu'il a le droit de tuer sa femme. Aussi sont des vraies preuves. Donc ça, c'était beaucoup plus fort pour moi de jouer ou de créer cette monstre, peut-être, sur scène, qu'un Don Carlo fragile et qui peut-être pas exactement mon caractère, mais en même temps, oui, c'est plus le public, c'est plus facile de suivre ses idées, et ses douleurs et ses problèmes que lequel d'Othello qui est tellement fort et brutal.
Don Carlos, c'est quoi plutôt pour vous, une pièce quand même sur le sentiment amoureux, ou Verdi l'a pas pensé comme tel, c'était plutôt pour lui une œuvre politico-religieuse avec l'Inquisition en toile de fond?
Oui, tous les deux, je crois. Sans le premier acte, c'est une pièce surtout politique. Mais avec le Fontainebleau, le premier acte, on comprend plus que l'amour fait une grande part de tous les conflits-là, de tous les problèmes-là. Et pour moi, franchement, le caractère de Don Carlos, il est peut-être jamais capable d'être roi un jour, et il le sait. Et cette grande amitié avec Posa, c'est aussi une idée fixe de lui, de la Flandre. je crois, pour Carlos, c'est pas très important, mais si comme il est extrêmement important pour Poza, et ça c'est son idole, il veut faire des choses comme Poza, il veut. Donc,
c'est Rodrigue, hein, aussi, oui, interprété Rodrigue, par oui. Ludovic Thésier, oui. Pardon, sur le plateau.
Ah oui, c'est formidable de chanter et de jouer avec lui, c'est vraiment... je suis un grand fan de sa voix et de lui-même, mais la voix, c'est incroyable pour moi. Peut-être le seul exemple que je connais, c'était José Van Damme, qui avait aussi la capacité de chanter un tellement beau legato dans les lignes, comme il fait Ludo. Donc, chaque fois, c'est un grand choix de chanter avec lui. Oui, vous avez là le disque maintenant.
Ah, oui. Si belle l'opéra, amitié que vous avez choisi, vous lui avez demandé de collaborer à votre disque, l'opéra.
Oui, j'ai aussi pensé de peut-être ajouter le duo, juste ce duo de Don Carlos, parce que c'est aussi en français, mais ils m'ont dit non, ça c'est pas l'opéra française. Au contraire, maintenant, pendant la répétition, Philippe Jourdain nous a dit quelques fois que pour lui, c'est une œuvre de l'opéra française. Je ne suis pas sûr, peut-être c'est un peu de tous les deux, mais franchement, j'ai toujours l'impression que Verdi avait écrit ça pour Paris parce qu'ils ont payé beaucoup, beaucoup. S'ils ont triplé son cachet normal pour le convaincre de venir ici à Paris et à faire une opéra en française. Donc, c'était pas forcément lui qui a choisi de le faire comme ça.
Vous en avez profité pour négocier votre cachet et tripler et le tripler entre la version
tard.
Italienne
trop
et la version française.
France Culture. La grande table. Olivia Jesbert.
C'est bon.
Le maître est sur le plateau.
Allons-y. Effet 203, top. Entrée du chef.
Midi et quart sur France Culture, superstar du lyrique, le ténor allemand Jonas Kaufmann est notre invité aujourd'hui dans la grande table, entouré d'un plateau d'exception. Il est en ce moment sur la scène de l'Opéra Bastille pour Don Carlos.
Écoutez, bienvenue dans cette belle maison qui est l'Opéra de Paris. Voilà, on va passer une saison ensemble.
I am from small village in Russia.
Et vous aimez Paris?
Bastille.
40 en dos.
Jonas Kaufmann, vous retrouvez aussi ici le directeur de la musique de l'Opéra de Paris pour cette production, Philippe Jourdain. Comment ça se passe de travailler avec lui? On vous voyait dans ce film documentaire de Jean-Stéphane Bron, le réalisateur suisse, l'opéra très investi au moment des répétitions. Comment ça se passe en vrai? Est-ce qu'il vous laisse une grande part de liberté dans la manière à la fois de chanter, de penser vos rôles? Et ou est-ce qu'au contraire, c'est un directeur de la musique, un chef d'orchestre qui aime bien imposer des contraintes?
Oui, je crois il pense beaucoup de son interprétation spéciale, donc peut-être il est pas facile de le convaincre à faire autrement, mais ça c'est mieux que quelqu'un qui a aucune idée et qui juste attend pour les autres d'y prendre l'initiative de créer quelque chose.
Les grands noms avec lesquels vous avez travaillé, on a le sentiment que ça ne doit pas arriver si souvent pour vous de travailler avec des chefs d'orchestre qui n'ont absolument aucune idée de ce qui peut se passer. Hein. Barenboim, Papano, Gardener, il y en a eu tellement, Rattle, c'est plutôt des gens qui sont assez affirmés dans leur pratique, non?
Oui, c'est vrai. Avec Philippe, il a peut-être une mode différente de travailler dans les procès. Moi, je cherche toujours... de premier moment, de trouver l'idéal et de charger tous avec des émotions, parce que pour moi, la musique est que des émotions. Il est créé pour
transmettre
les émotions. J'ai l'impression que Philippe commence toujours très technique, donc il veut contrôler, il veut organiser tous au début, et après, dans le spectacle, il laisse s'aller, il commence à interpréter aussi émotionnellement, mais ça c'est vraiment très différent de mon approach, whatever that is.
Approche. Tout simplement.
Non, et quelquefois c'est simple, quelquefois c'est complètement différent.
Inutile regret, je dois quitter Carthage. Ninon le sait, son effroi, sa stupeur en l'apprenant, ont brisé mon courage. Mais je le dois, il le faut. Non, je ne puis oublier la pâleur frappant de mort son beau visage, son silence obstiné, ses yeux fixes et pleins de feux sombres. En vain je parlais des prodiges sans nombre, me rappelant l'ordre des dieux. Invoquer la grandeur de ma sainte entreprise, l'avenir de mon fils et le sort des Troyens. La triomphale mort par les destins promises, pour couronner ma gloire aux champs aux années, rien n'a pu la toucher. Sans vaincre, sans silence, j'ai fui de son regard la terrible éloquence.
Le français dans l'opéra, malgré tout, vous lui rendez quand même hommage dans ce disque, hein, l'opéra. Pourquoi ce titre d'ailleurs aussi simple et discret? Vous avez quand même réuni là et donné à entendre vos coups de cœur, vos choix. On y retrouve beaucoup de français, Gounod, Massenet, il y a du Bizet, il y a du Offenbach, il y a du Berlioz dans ce disque, dans cette sélection que vous avez fait de grands airs, que vous avez interprété ou pas sur scène, parce qu'un certain nombre vous n'avez pas pu, je crois, les interpréter au moment où vous avez été arrêté. Immobilisé par la voix.
Exactement.
Donc vous avez choisi de prendre pour ce disque.
C'est trois opéras qui j'étais pas capable de les chanter et c'était programmé. Ça c'est bien sûr le Comte Hoffmann ici l'année passée à Paris. Ça c'était les Troyens que j'aime beaucoup. Je suis un grand fan de Berlioz. Et Troyen était prévu pour, je crois, 2012 à Londres. Et je ne pouvais pas aller parce que j'étais malade à l'époque. Et exactement la même chose, c'est le cas avec Roméo et Juliette. Ça, c'était à Venise. Donc oui, mais quand même, si je n'ai jamais chanté sur scène, je l'ai préparé, j'ai commencé à les aimer, donc c'était pour moi évidemment important de le mettre dans ce disque. Ils sont des autres titres que j'ai chanté beaucoup sur scène, et autres que c'était clair que je le chanterai jamais, comme le roi 10, Lalo. Ça, c'est pas forcément mon cœur répertoire, mais ça, c'était la toute première ère que j'ai chanté dans ma vie professionnelle en français. Donc, aussi un choix personnel.
Il y avait sa place sur ce disque.
Ouais.
Puisqu'on ne peut fléchir ces jalouses gardiennes, laissez-moi compter mes peines et mon émoi. Près de ta porte fermée, je
Lohengrin en janvier, Don Carlos maintenant, un Werther, l'opéra du français Jules Pastenay en 2010, qui continuera longtemps, je pense, dans la tête du public français à vous associer ici à l'opéra Bastille. Aujourd'hui, donc, ce Don Carlos, un pied dans Wagner, on le disait, un autre dans Verdi, et puis ce répertoire français à qui vous rendez peut-être hommage aussi par sa singularité. Vous n'êtes pas obligé de chanter Cocorico à ce moment-là. Je voudrais quand même, il nous reste assez peu de temps, dire un mot du rapport que vous pouvez avoir à votre voix. C'est pas facile d'expliquer ce qu'elle a de particulier. Je sais pas si vous, avec les années, vous avez appris à le faire. Vous n'êtes pas simplement ténor, mais plus exactement, comment dit-on, ténor, lyrico, spinto. Est-ce que c'est vrai ou pas?
Oui, peut-être. J'ai toujours des problèmes avec catégorisations des voix
parce qu'elles évoluent.
Ah oui, non. Au début de ma carrière, j'ai signé mon premier contrat, c'était à Saarbrück, et j'ai signé le contrat pour voix, masculine, surtout ténor et pas disponibilité, mais ça, donc tous. Et ça, je me dis non, la prochaine fois tu signeras un contrat pour ténor lyrique léger mais maintenant je crois. Oui, c'est mieux d'être pas fixé ou placé dans un répertoire spécial, parce que je cherche à chanter presque tous. J'ai toujours quelquefois chanté des choses de Mozart, et j'ai chanté le Wagner, et j'ai chanté les choses du Verdi, du Puccini. Oui, peut-être lyrico spinto, c'est le juste, mais héroïque. Quelquefois, c'est le ténor héroïque, ou quelquefois seulement lyrique. Mais ça m'est égal. S'il me plaît, je suis capable de le chanter. Donc, aussi baryton, peut-être, sera possible. Comme Pélias, par exemple, c'est un rôle entre le répertoire des ténors et le répertoire des barytons. Donc, ça, je ne parle pas d'une carrière comme Placido, mais quelquefois, il est possible. Ou le Lied von der Erde, la chanson de la Terre, que j'ai chanté l'année passée ici à Paris. J'ai enregistré à Vienne avec le Vienna Philharmonic. C'était pour... ils sont 6 chansons, 3 pour ténor et les autres 3 pour... ou baryton ou mezzo-soprano, et j'ai chanté tous les 6 parce que c'était pas une grande différence entre les deux voix.
Mais vous l'aimez, votre voix?
Oui, plus ou moins, oui.
Vous vivez comment avec elle? Vous cohabitez? Elle est le prolongement de vous-même? C'est vraiment quelque chose de très intérieur, ou vous la percevez presque comme un instrument pour le musicien, comme quelque chose que vous pouvez manier, malaxer, apprivoiser?
Non, je suis très content parce que quelquefois, tu as un instrument qui t'a donné de la nature, au Dieu, et tu peux le raffiner, tu peux travailler beaucoup pour être capable de faire des choses qui sont aux limites ou peut-être hors de normal, mais tu peux pas la changer complètement. Et moi, je commençais comme un ténor léger, mais vraiment léger, avec beaucoup des aigus, presque comme un autre contre. Et j'avais pas de notes bas, donc avec une autre technique, récupéré et trouvé un nouvel instrument complètement différent que l'autre, avec cette son barytonal.
C'est quoi un son barytonal?
Non, le bary, ça veut dire que je chante. Oui, c'est pas oh, c'est bon, oh, c'est le doigt reste ouvert toujours, parce qu'autrement, c'est plus le ténor qui fait ça que les barytons, mais il est plus sonore, peut-être, plus ronde, plus lourd quelquefois, mais sans perdre les aigus. Donc, et je suis extrêmement content de ça, parce que aussi du début de ma carrière, je me dis toujours, je dois accepter mon instrument et je dois faire ce que je peux dans mon répertoire. Je peux pas exagérer, je peux pas pousser mon instrument dans des des répertoires que je ne suis pas capable, parce que ça, c'est mal pour l'instrument, mal pour la carrière. Et j'aime trop cette métier pour prendre le risque de terminer ma carrière trop tôt.
Merci, Jonas Kaufmann. Merci beaucoup, Jonas. Jonas Kaufmann, c'était donc la rencontre de ce vendredi. Jonas Kaufmann qui sera encore demain soir sur la scène de l'Opéra Bastille pour y interpréter Don Carlos, avant de laisser place à une nouvelle distribution à partir du mardi 31 jusqu'au 11 novembre. Et puis si vous l'avez manqué dans cette distribution, dans ce Don Carlos version française, vous pouvez le retrouver en ligne sur arte.tv, Arte Concert qui a capté cet opéra le 19 octobre dernier avec, rappelons-le quand même, une distribution prestigieuse. Jonas Kaufmann mais aussi Sonia Yontcheva, elle sous la baguette de Philippe Jordan dans une mise en scène de Christophe Warlikowski. Voilà, et le disque de Jonas Kaufmann, l'opéra est dans les bacs sous le label Sony Classique.